Bonjour à tous, bonjour Dominique. Nous sommes vendredi.
Ben vendredi, on va se nourrir pour...
De poisson.
Je n'en peux plus, mesdames et messieurs, je n'en peux plus. Je suis au bout. Eh bien, on va se nourrir d'esprit pour le week-end. Le week-end dernier, 7 et 8 décembre, à la Sorbonne, il y a eu un colloque. Un colloque qui s'appelait « Après la déconstruction ». Alors, deux choses importantes à dire d'emblée. Que ce colloque ait eu lieu, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment une raison d'optimisme. Et qu'il ait eu lieu à la Sorbonne, qu'il ait pu avoir lieu à la Sorbonne, c'est encore plus encourageant. Lieu hautement symbolique de la vie intellectuelle française. Non seulement française, mais européenne, mondiale, tout ça, la Sorbonne. Alors, c'était organisé par l'Observatoire du décolonialisme, le Collège de philosophie et le Comité laïcité république. Et ça a eu un succès absolument formidable. Il y a eu 60 intervenants, il y a eu 1300 inscrits.
Sur combien de temps ?
Deux jours. J'aurais voulu avoir le temps de visionner un peu tout avant d'en parler, mais comme j'ai pas eu le temps de m'y mettre, j'en parle d'ores et déjà.
Non, on préfère regarder le quotidien.
Alors,
on peut pas tout faire.
Même avant ça. Alors, mais avant même, c'est ça qui est intéressant, qui me permet de dire que ce colloque est vraiment encourageant et qu'il était intéressant. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ait lieu, il y a les syndicats Sud, il y a l'UNEF, il y a le Libération, le journal, Mediapart et Le Monde qui a publié une tribune de 74 décolonialistes purs et durs pour, avant même que ce colloque ait lieu, pour condamner d'avance ce colloque en disant que c'était un colloque de l'extrême droite et que ça n'avait aucune valeur. Et alors j'ai lu cette tribune et cette tribune, elle est... C'est caractéristique de ce qu'on vit actuellement dans les universités françaises. Ça n'est que de l'anathème, que de l'invective. Il n'y a pas l'ombre d'une démonstration. Il n'y a pas l'ombre de la mise en examen d'un argument. Il n'y a pas l'ombre d'une analyse cohérente, rationnelle des choses. C'est de l'invective. C'est l'extrême droite. C'est des fascistes. C'est que de l'invective. Et ce colloque, donc, à analyser pendant deux jours ce que les ressorts, les origines et les bases de ce qu'est le wokisme, c'est-à-dire cette idéologie de cancel culture, cette idéologie d'exaltation des minorités, et ils ont analysé ça. En l'analysant là de manière rationnelle, cohérente, et en ne jetant pas tout à l'égout comme ça d'un seul mot. Donc ça a été extrêmement intéressant, extrêmement formidable de voir ça. J'ai trouvé ça... ils ont mis en avant ce qu'on constate toujours dans le wokisme. Le wokisme, c'est la gauche. La gauche, c'est une partie de la gauche s'est réfugiée là-dedans, dans le cancel culture et dans le wokisme. C'est la négation des faits. C'est-à-dire, les faits ne comptent pas. Ce qui compte, c'est l'intuition qu'on a des faits. C'est-à-dire, voilà, on a une intuition. Le mépris des sources, peu importe d'où ça vient. Quelle que soit la légitimité de la source, on s'en fout, ou la non-légitimité de la source, et puis la non-cohérence de la démonstration. Et ça fonctionne comme ça, et tous les dogmatismes fonctionnent comme ça. Tous les dogmatismes fonctionnent sur une essentialisation de celui qui parle. C'est-à-dire, on n'écoute pas ce que vous dites, on regarde ce que vous êtes. Vous êtes blanc, donc ce que vous dites, c'est déjà faux. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Vous êtes un homme, vous ne pouvez pas parler des femmes. On essentialise tous les discours, c'est-à-dire on confisque les discours. Et alors, figurez-vous que ça m'a interpellé parce que ça m'a incité à poursuivre ma mue. Vous savez, à un moment, j'ai dit que j'ai même écrit que l'écriture inclusive... C'était bien. Eh ben, ils m'ont convaincu, là, ce week-end-là, que c'était une horreur, que c'est pas du tout bien, que c'est une déconstruction, non seulement de notre langue française, mais de notre culture française. Et en fait, ce qui ressort de tous ces travaux de ce colloque, c'est que la déconstruction, c'est à bannir. Et déjà, il y a longtemps, faudra que je retrouve la citation, mais elle est du 18e ou du 19e siècle, dire c'est pas déconstruire qu'il faut, c'est construire. C'est la construction qui fait que les constructions précédentes sont obsolètes. Mais on ne les a pas déconstruites pour faire table rase et qu'il n'y a rien à la place. Or, les déconstructivistes wokistes d'aujourd'hui veulent déconstruire sans construire à la place. Et alors, je me suis... Alors ils ont fait, ils ont analysé historiquement les origines de la déconstruction. Ils font remonter ça, par exemple, à la guerre d'Algérie pour le décolonialisme, enfin tout ça. Et certains ont mis, ont expliqué, et c'est pas totalement faux, ça peut choquer certains de nos auditeurs, que Vatican II avait été déjà une démarche de déconstruction. L'Église n'est plus la même avant qu'après. C'est n'est plus après qu'avant, plutôt, plus exactement. Il développe tout ça, c'est très intéressant. Et ça m'a incité à me porter sur un livre de Batia Ungar Sargon, qui est la rédactrice en chef adjointe de Newsweek. Et alors, elle démontre dans son livre comment l'idéologie woke est née aux États-Unis. Et alors, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit la gauche, mais c'est la France. Ce qu'elle dit des États-Unis, elle pourrait le dire de la France. La gauche, une certaine gauche, s'est complètement désintéressée des classes populaires, totalement désintéressée de la fracture qu'il y avait entre les déshérités et les plus riches. C'est une gauche qui, finalement, s'accommode assez bien de la fracture économique, s'accommode assez bien de la mondialisation, et qui, pour trouver d'autres damnés de la terre à secourir, est allée se précipiter vers les minorités. Et peut épouser toutes les formes de minorités, et avec une seule idée en tête, de les analyser, ces minorités, d'analyser le monde tel qu'il fonctionne sous le concept de la domination. C'est-à-dire, chaque fois qu'ils prennent une situation, ils cherchent le dominant. Et quand il n'y en a pas, ils l'inventent. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces folies-là, où on vous explique que un pays, par exemple, ou une société qui fonctionnerait comme la nôtre, indifférent en ne faisant aucune différence de religion, de race, de couleur de peau, est foncièrement raciste parce que justement elle ne fait pas de différence entre les races. Vous vous rendez compte où on en est? C'est ça le wokisme. C'est-à-dire on entre dans une absurdité, dans une espèce, oui, absurdité au sens vrai du terme, qui, comme tous les terrorismes, comme toutes les dictatures, fonctionnent justement sur de l'absurde, sur quelque chose qui est toujours indémontrable, sur du sophisme, en permanence. Voilà, c'est-à-dire que si vous parlez de l'égalité homme-femme, c'est que vous n'êtes pas féministe, parce que l'égalité, c'est déjà la domination. Enfin, vous voyez, c'est un cercle absolument épouvantable. Et tout repose uniquement sur l'anathème. Voilà. Alors, c'était extrêmement intéressant. Donc, je révise ma copie aussi sur le fait. J'ai souvent défendu l'idée, à la suite de Barbara Cassin, qui est une philosophe et philologue éminente, que les mots, c'était des faits et des actes en puissance. Ben, je vais revenir aussi un peu là-dessus. Oui, je fais mon repentir en permanence en ce moment. Je vais mériter le paradis un jour. C'est que c'est faux. Il y a des mots qui n'ont aucun lien avec la réalité, aucun lien avec le réel, aucun lien avec les faits, qui sont juste là pour stigmatiser, pour créer une morale, pour créer un jugement moral dévalorisant pour celui auquel on jette à la figure ce mot-là. Islamophobie, c'est ça. Il n'y a pas de réalité, mais c'est un mot qui devient stigmatisant pour celui à qui on le jette à la figure. Voilà. Donc il y a des mots sont parfois inventés, construits, sortis pour n'être qu'un outil idéologique et non pas la référence à un réel, la référence à un fait, la référence à quelque chose qui pourrait apporter une démonstration, l'élément scientifique d'une démonstration. Et ce col-là, qu'il est fondamental, parce que je pense, je parlais de décomplexer sur un autre sujet, mais là ça va décomplexer, je suppose, un certain nombre d'enseignants d'université qui sont terrorisés. Moi, j'ai des copains qui étaient enseignants à l'université, qui me parlent de leurs collègues qui sont terrorisés par le climat qui est actuellement. Eh bien, ça va les décomplexer pour dire, attendez, arrêtez votre char un peu, on va remettre l'église au milieu du village, et puis on va parler de ça. Et ça m'a incité à revoir aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé ici, c'est que la solution, elle n'est pas forcément à l'université. Les Lumières, le fameux, la philosophie des Lumières, le mouvement des Lumières, qui a libéré le droit à la liberté individuelle, à la liberté de conscience, à la raison, qui a mis à sa place la raison. Le mouvement des Lumières, il n'est pas né à l'université. Il est né en marge de l'université, il s'est développé en marge de l'université. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est en marge et en dehors de l'université que la solution peut émerger.
On voit que vous êtes philosophe. Hein,
non, mais c'est... Moi, ça m'a... Là, je vais vous dire, ça m'a rendu heureux.
Oh, ben c'est le principal.
Oui, mais oui, ça m'a rendu heureux.
Si vous êtes heureux,
J'ai dit, mon pays n'est pas mort. Cette civilisation occidentale, européenne et française à laquelle je suis tellement attaché, elle n'est pas morte, elle ne mourra pas.
On se fait une pause ?
Oui.